Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières sur les trois dernières interventions? Est-ce qu'il y a des précisions que les personnes de l'éducation nationale veulent apporter, puisqu'on avait prévu de faire aussi une petite table ronde, mais on peut la faire par le biais des questions?
C'était pas vraiment une question, c'était un témoignage. J'étais vraiment touchée par les deux premiers témoignages qu'il y a eu d'une institutrice et d'une maman. Et je voudrais rendre hommage à mes collègues psychologues scolaires parce que je trouve qu'elles ont été très peu évoquées. Et moi, je travaille comme psychologue, psychothérapeute en CMPP. Et sans elles, on ne ferait pas grand-chose.
Merci. Mais c'est vrai qu'elles nous aident beaucoup parce que c'est par le biais de leur bilan généralement que nous avons des saisines et pour apporter effectivement des mesures de compensation. Madame Pénilo ?
C'est ce que j'allais dire. C'est
que effectivement, la plupart des bilans neuropsychologiques sont faits par les psychologues scolaires. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais je crois que c'est dans ma tête tellement clair que... Voilà, mais c'est la plupart des bilans, hein, nous on en refait très peu au sein du langage, mais la plupart. Tout à fait, d'ailleurs, oui, dans ma consultation, j'ai beaucoup d'enfants j'ai quelques enfants qui sont suivis régulièrement par les psychologues scolaires et avec une certaine guidance parentale.
Alors ça, c'est en effet, je suis d'accord. Hein. Simplement, les psychologues scolaires deviennent aussi elles-mêmes un peu seules dans leur réseau, puisqu'il n'y a pratiquement... Enfin, moi, j'ai un réseau, il y a une psychologue scolaire dedans, le réseau d'aide spécialisée, hein, le RASED. Il n'y a plus d'enseignantes spécialisées en rééducation psychomotrice, plus d'enseignantes d'adaptation. Enfin voilà, donc elle est un peu seule aussi, donc débordée. Son champ d'action... Oui. Oui, non, mais je suis bien d'accord, si vous voulez, mais ça fait des années que j'entends ce discours-là, qu'il faut montrer qu'on est débordé. Je suis d'accord, mais bon, ça ne change pas le problème. Oui, tout à fait, j'entends.
Oui. Moi, je souhaiterais demander à Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale pourquoi...
Pardon, excusez-moi. Je suis là. Merci.
Pourquoi est-ce que ce sujet des troubles 10 ne fait pas partie de la formation continue des enseignants?
Alors...
Nous sommes là ce soir sur notre temps personnel et je trouve que c'est vraiment un manque... Moi, je le ressens très, très fort. Et je trouve que ça devrait faire partie de notre formation continue professionnelle.
Alors, deux éléments de réponse. Le premier, donc, moi, je travaille directement aussi au niveau de l'ESPE, hein, donc ici, pour les blocs de formation. Donc, c'est quelque chose qui a été réinscrit dans la loi. Donc, ça, c'est pour la formation initiale. Pour la formation continue, mais je vais arriver à la réponse. Pour la formation continue, donc, l'année dernière, 14 stages ont été, enfin cette année d'ailleurs, pardon, ont été organisés au niveau des collèges, donc qui ont demandé des stages 10, et j'entends bien votre question par rapport au premier degré. Alors vous savez que ça fait partie des plans d'animation de circonscription. C'est vrai que c'est pas forcément directement entré. La difficulté, et je suis pas en train d'éviter votre question, c'est que rentrer par un trouble, ça voudrait dire qu'on aurait des formations spécifiques pour tous les troubles susceptibles d'être rencontrés. Il me semble plus important, et actuellement c'est la politique académique qu'on essaie de conduire, de travailler autour des élèves à besoins éducatifs particuliers, que ce soit les élèves en grande difficulté, les allophones et toutes les situations qu'on peut rencontrer. Je crois que c'est important de se poser la question de comment moi, dans ma classe, je peux aider un élève en difficulté, quelle qu'elle soit, plutôt que de développer des compétences de spécialiste sur l'ensemble des domaines, sachant que pour certains, je pense au niveau des TED, ça serait très, très difficile compte tenu des volumes possibles.
Oui, mais je ne pense pas justement que nous ayons une formation pour que nous puissions apporter des réponses concrètes dans nos classes par rapport à tous ces enfants, enfin non. par rapport à ces enfants qui présentent des troubles d'apprentissage.
Alors, ce qui ressort, parce que vous l'avez bien entendu ce soir, il y a un certain nombre de troubles. L'important par rapport à ça, effectivement, j'entends bien, mais on ne peut pas faire une checklist parce que chaque enfant est différent et selon le niveau de classe. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il y a des difficultés, faire appel à un conseiller pédagogique, faire appel à un conseiller pédagogique ASH qui, lui, ou un enseignant spécialisé, viendra pour vous donner quelques éléments à minima pour pouvoir vous aider dedans. On peut, enfin, c'est très difficile d'imaginer la formation qui permettra, quand vous voyez les blocs de formation pour les enseignants spécialisés, ils sont spécialisés dans un domaine, et même quand ils sont spécialisés, ce qui est valable en maternelle n'est pas valable forcément pour un élève à suivre en BTS. Donc, je ne suis pas en train de dire non. Je crois que la question première pour nous, c'est de dire... J'accueille l'enfant à l'école, je suis à l'écoute des parents et j'essaie de voir là ce que je peux faire au quotidien. Et après, il y a les équipes éducatives, il y a l'MDPH, il y a les partenaires à côté pour essayer de répondre à d'autres besoins. Oui, je vous en prie.
Si vous voulez que vous ne savez pas comment faire, parce qu'en effet, tous les handicaps
sont... Je
n'ai pas
dit que je ne savais pas comment faire. Je vous ai dit comment il faudrait qu'on fasse. Ah ben, c'est pas un résumé, c'est une déformation.
Moi, je suis sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24. Non, 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 non. Moi, 24 heures sur 24 et la nuit aussi, parce que j'ai un enfant dyspraxique, monsieur. Et voilà. Non, non, mais je suis enseignante et maman d'enfants dyspraxiques. Je suis sur le terrain 24 heures sur 24.
Je suis sur le terrain aussi assez souvent.
Vous avez un enfant handicapé, monsieur ?
C'est pas la question, madame.
Si, 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 c'est important parce que. Si, si. Parce qu'il y a des choses à mettre en place très simples que les enseignants ne savent pas, parce qu'on ne leur dit pas, et parce qu'ils ne connaissent pas les handicaps, évidemment. Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dysgraphie, et j'en passe. C'est très compliqué. Mais il y a des choses qu'on peut aménager qui sont communes pour tous ces enfants-là, qui de toute façon ne font pas de mal, et qui font en plus du bien même aux autres enfants qui ne sont pas dys. Voilà. Ce sont des choses simples. Moi, je sais le faire. J'ai reçu une formation pour ça. Je peux dispenser cette formation aux autres, sauf que je le fais même bénévolement. Donc je suis prête à le faire, mais pour l'instant, on n'est pas écouté du tout. J'ai une collègue dans la Manche qui fait la même demande, on n'est pas du tout écouté. On peut expliquer comment présenter un document à un enfant dyslexique ou un enfant dyspraxique, pour que ce soit plus facile à lire pour lui, pour qu'il souffre moins. Parce qu'il est en souffrance, l'enfant. Il faut.
Mais nous sommes d'accord,
voilà.
Madame.
Non, non. Ouais, vous êtes d'accord, mais n'empêche que.
Je ne pense pas avoir dit autre chose que ça. Et ce que vous évoquez, c'est bien. La question, c'est pas de savoir s'il est dit de tel niveau ou quoi que ce soit. C'est bien de répondre à ses besoins.
Voilà. Mais il y a des façons simples de répondre aux besoins. Au niveau du premier degré, il y a des façons simples. La façon de présenter un document. Quand un enfant dyslexique ou dyspraxique, je connais mieux la dyspraxie, excusez-moi, arrive avec son ordinateur à l'école, attribué par l'Éducation nationale et la MDPH, et qu'il ne sait pas s'en servir parce qu'il ne sait pas taper assez rapidement, et que l'enseignant ne sait pas non plus quoi faire de l'ordinateur parce que on n'a pas appris à enseigner avec des ordinateurs.
Il refuse que l'élève se serve de l'ordinateur.
Parce que c'est encombrant.
Ça, faut le faire remonter, ça fait partie du PPS, c'est une obligation.
Oui, et comment faire appliquer le PPS ? Voilà, ça c'est une autre question.
Mais
ça,
c'est en tant que maman. Droit,
mais en tant qu'enseignant, pour répondre à ça, il y a des choses très simples à faire, des pratiques. Les enseignants ont besoin de choses pratiques.
Oui, voilà. Madame Conant, je vais rebondir un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Je suis enseignante spécialisée dans le handicap moteur. Je suis itinérante sur le département. Je fais partie du pôle pédagogique pour le handicap. Et bon, ce que vous décrivez, c'est exactement ce que je rencontre dans toutes les écoles du département. Effectivement, quand il y a un enfant qui à une reconnaissance du handicap ou un PAI. En général, les enseignants connaissent leur élève, savent qu'il a une difficulté, mais constatent la difficulté parce qu'ils remarquent qu'il n'y a pas moyen que l'enfant écrive deux lignes sans se tromper, sans faire d'erreur. Mais ça ne va pas leur servir à identifier l'origine et donc les outils qu'ils pourraient utiliser. même si un jour cet enfant revient en classe avec un ordinateur, il n'y a pas eu cette transmission du quoi faire avec cet outil ou avec ces injonctions qui ont été entendues à un moment donné lors d'un coup de téléphone, peut-être avec l'orthophoniste ou lors de la visite de l'enseignant spécialisé qui a pu venir une fois dans l'année, c'est moi l'enseignante. Il y a une énorme déperdition des énergies et des bonnes volontés, parce que la bonne volonté, elle est là, la bienveillance, elle est là, mais le désespoir aussi est là du côté des enseignants, des familles et bien entendu des enfants qui sont avant tout au cœur de nos préoccupations. Quand on parle de PPS, de projet personnalisé de scolarisation, ce PPS, il arrive en premier, il est destiné, je crois, interrompez-moi Madame Coletta, aux familles. Et les familles le transmettent ou non à l'école. Oui, mais la même chose, ce n'est pas forcément transmis. Et puis, les enseignants n'identifient pas forcément quand ça leur arrive, quel est ce document et ce qu'ils peuvent en faire. Et il faut bien reconnaître que la déclinaison exacte de tous les aménagements pédagogiques ne figure pas in extenso, bien entendu, dans le PPS qui retient des grandes lignes en général par rapport au temps de scolarisation ou à l'orientation. Hein, mais la déclinaison, voilà, concrètement, dans ma classe de CE2, je fais quoi avec ma petite Marine qui n'arrive toujours pas à écrire et à lire seule? J'ai besoin, il faut que je me déplace auprès d'elle avec mes 26 élèves, etc. C'est ça la réelle difficulté. Parce que les enseignants, malgré tout l'amour de leur métier, leur savoir-faire, leur professionnalisme, le respect qu'ils ont pour leurs élèves et leurs familles, se retrouvent extrêmement démunis. Et trop souvent, je reviens dans les écoles ou dans les collèges, et l'année suivante, ce qui a été transmis à l'enseignant suivant, c'est « Ah oui, pour cet élève-là, oui, c'est ça, il faut agrandir ». Il faut agrandir et l'élève se retrouve avec une feuille à 3. Agrandi. Et effectivement, tout le monde sursaute à la tribune parce qu'on sait bien que ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais voilà, ce n'est pas franchement de la mauvaise volonté, mais on est dans un manque.
Merci. On va prendre deux dernières questions, madame et monsieur. Et puis si après on a besoin d'échanger, on le fera autour de la collation.
Oui, madame. Bonsoir. Moi, je suis la maman d'un enfant en difficulté. Et je voulais simplement dire par rapport au niveau de l'école, je me sens vraiment seule. Et je rejoins madame, excusez-moi, je suis un peu émue parce que c'est très difficile. Je n'ai pas du tout réussi à réunir une équipe éducative. Mon fils est suivi à la guidance. La pédopsie a demandé une équipe éducative. Je pense qu'il est dyspraxique, mais il n'est toujours pas diagnostiqué. La psychologue scolaire, j'ai demandé à la voir, elle m'a dit, par le biais de l'enseignant, qu'elle avait vu Gabriel en CP, qu'elle avait fait un bilan, et que pour elle, c'était plus du tout de son ressort. Donc c'est vrai qu'effectivement, rien ne m'est proposé. L'enseignant m'a dit, texto, s'il n'est pas diagnostiqué 10, quelque chose, on ne peut rien faire. Et il m'a également dit... c'est à vous de mettre en œuvre des moyens, et puis ce que vous pouvez faire vous personnellement, c'est très bien. Nous, au niveau de l'école, on peut rien faire. Donc ça, je trouve ça un peu vraiment, c'est très difficile, d'être seule comme ça. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que c'est par des recherches sur internet que j'ai découvert la dyspraxie. Je connaissais pas du tout, mais en lisant les symptômes, je trouve qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à mon enfant. Et voilà, par rapport à l'éducation nationale, j'adore votre tableau très idyllique, mais je trouve qu'on est vraiment très seuls, nous, les parents, nos enfants en difficulté.
Alors, vous n'êtes malheureusement pas la seule maman qui nous donne ce genre d'informations. Donc, il y a la possibilité aussi de nous saisir directement. Nous avons un représentant de l'éducation nationale qui se chargera à ce moment-là de vous remettre en rapport avec l'enseignant référent pour faire en sorte qu'on puisse avoir cette équipe.
J'ai fait un mail parce que j'ai cherché toute seule. Voilà. Et j'ai fait un mail justement à cet enseignant référent qui m'a dit qu'elle se mettra en relation avec l'école.
D'accord.
Voilà. Et, mais sinon, il n'y a pas d'aide parce que mon fils, en plus, étant dans une école de camp centre, il n'y a aucune aide pour les enfants. Il n'y a pas en RAZ ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Et il n'y a rien, quoi. Donc, débrouillez-vous tout seul.
Donc, n'hésitez pas à nous saisir et puis nous, on se mettra en rapport avec, on fera le lien.
Très clairement, pour
vous
moi, les propos
qui vous
ont été donnés...
Vous pouvez aussi faire appel au réseau. Dont les coordinatrices sont là dans la salle.
Et très clairement, je le dis en tant qu'inspecteur, les propos qui vous ont été tenus par un enseignant ne sont pas acceptables. C'est très clair. C'est pas acceptable. Non, non, je parle de la réponse, madame. D'accord ? Il y a des manières de répondre quand même aux parents.
On avait encore une question. Dernière question.
Je suis désolée, mais on est pris par le temps. Monsieur, vous aviez donc une question à poser.
Donc, je suis désolée, je suis encore de la famille Conan. Je suis donc Monsieur Conan. Je représente aussi l'association Dyspraxique mais Fantastique, avec lequel, d'accord, nous travaillons avec le réseau Normandis et avec la MDPH de l'Orne, entre autres. Donc, ma question, c'est simple. Notre fils, il a donc un PPS, comme beaucoup d'autres enfants. En réunion en ESS, le PPS a été mis au point. Il revient au collège pour être appliqué. Et à la dernière ESS, je fais remonter un petit peu ma colère en disant que le PPS, il n'est pas vraiment appliqué. Pourtant, les profs, ils ont eu une formation, une information. Les gens de l'APF, l'ergothérapeute, elle est passée 4 fois au collège. Donc, normalement, tout devrait se faire. Mais la prof d'anglais m'a répondu quelque chose, sa prof principale, et avec bienveillance, parce que je trouve que sa réponse, elle est tout à fait valable. Elle m'a dit, Monsieur Conan, dans le collège, j'ai 20 élèves différents. Il faudrait que j'adapte 20 cours adaptés. C'est tout simplement, ça n'est pas possible. Cette prof principale, elle veut bien le faire, mais elle ne peut pas. Et je veux bien le croire. On ne demande pas aux enseignants de travailler jusqu'à minuit le soir pour préparer leurs cours. Je suis désolé, je suis un peu ému aussi. Mais c'est un problème. Alors, vous ne pouvez pas tout résoudre ce soir, c'est évident. Mais je pense que là, on a gagné quelque chose avec la loi de 2005. Maintenant, je crois qu'il faut aller plus loin et vraiment faire en sorte qu'on puisse l'appliquer. Excusez-moi.
Alors, comme on n'a pas effectivement de réponse immédiate où il y a beaucoup de choses à améliorer, nous en sommes conscients. C'est pour ça aussi qu'on participe à des expérimentations. Le collège de Bréal dans la Manche fonctionne avec une organisation, avec une division, avec des élèves à besoins éducatifs particuliers, puis d'autres qui sont en vraie réussite scolaire, et avec des horaires allégés. Donc avec une 20aine d'élèves, et puis donc les classes de 3e ont d'autres, donc ont un peu plus effectivement un peu plus d'élèves, mais des modalités différentes de fonctionnement. Donc tout ça c'est pour vous dire que on n'a pas une réponse immédiate à chacune des situations, et j'entends bien, c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, que ça n'est pas acceptable. Ceci dit, il n'y a qu'en travaillant ensemble et en vous écoutant aussi qu'on peut essayer de progresser par rapport à ces éléments.
Je voulais terminer pour quand même vous donner de bonnes nouvelles sur le plan national. Il y a une recherche INSERM qui est lancée par la CNSA. Moi, je participe à ce groupe de travail. On va évoquer la dyspraxie. Ça va être un état des lieux de tout ce qui se fait. Hein, et c'est en remontant ces informations-là qu'on va pouvoir aussi peut-être tendre à ce qu'il y ait une amélioration. Mais on sent bien que l'amélioration, elle vient non seulement de la bonne volonté, mais elle vient aussi de la connaissance des difficultés. Et elle viendra de moyens supplémentaires qu'on ne nous accorde pas pour l'instant, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre les uns les autres. Vous n'avez pas évoqué le manque de professionnels de santé, vous avez évoqué la vie déserte dans les RAZ, mais le manque de professionnels de santé fait également que l'accès aux soins est complexe. Moi, je suis dans l'Orne, il y a 18 mois de liste d'attente pour un enfant, pour un bilan. Donc, alors, il faut qu'on fasse remonter ces informations-là, et plus nous serons nombreux à nous parler comme ce soir, plus nous serons nombreux à en parler à d'autres, moins concernés peut-être, plus ces informations-là remonteront et plus le plan santé à l'école, parce que c'est quand même, ça existe, le plan santé à l'école, pourra être justifié et peut-être avoir des moyens.
Voilà, et donc je voulais conclure en disant effectivement, ce qui fait la force, c'est le travail en réseau et en partenariat, parce que c'est par ce travail en réseau qu'on va pouvoir diffuser une bonne information, qu'elle va pouvoir être partagée et qu'on va pouvoir, dans des niveaux de proximité, commencer à être opérant directement auprès de l'élève et accompagner les parents. Et donc, je voulais vraiment vous remercier pour cette initiative qui permet de poser à chaque fois des jalons nouveaux pour avancer. Merci.
Merci. Je voulais remercier tout le monde d'être venu ici nombreux ce soir, remercier nos intervenants. Je sais qu'on aurait pu parler encore longtemps, on pourrait continuer longtemps, et c'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre, si vous voulez, autour d'un petit pot, autour d'un verre, si vous avez un petit moment.